Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle émission CV Nadurio. Comme chaque mois, nous sommes en studio à Radio Bro Gwynedd pour parler de la Bretagne et de sa diversité culturelle. Une émission qui, vous le savez, est réalisée en coproduction avec Radio Kreiz Breizh, le réseau des radios associatives en langue bretonne Radio Breizh et l'association BCD, une émission que vous pouvez retrouver sur le portail internet radiobreizh.net en français et en langue bretonne. Comme chaque fois, je suis accompagné de Michael Biernik. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes responsable de l'information et de la communication au sein de l'association Bretagne Culture Diversité et de Philippe Lanoé. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historien et votre mission à BCD, c'est de nous faire partager votre passion pour l'histoire de la Bretagne, ses cultures et les éléments de son patrimoine culturel immatériel. Aujourd'hui, on va pas avoir de chronique historique, mais vous allez nous parler des les fameux temps d'activité périscolaire. C'était le thème de la journée organisée par votre association BCD le 3 avril dernier à Pleumeur dans le Morbihan. Une journée d'échange, de rencontres initiée par le collectif TAP Bretagne qui travaille sur la place de la culture et des langues de Bretagne au sein de ces fameux TAP. Le mois de juin sonne la fin de l'année scolaire. C'est l'occasion pour nous de revenir sur la mise en place donc de ces temps d'activité périscolaire, d'aborder avec une année de recul leur rôle dans la transmission de la culture bretonne et des langues de Bretagne, d'aborder aussi les problèmes d'ordre pratique liés à la gestion, à la formation, au statut des personnes qui encadrent ces activités, également de sonder les attentes des collectivités en matière de culture bretonne. Beaucoup de témoignages dans cette émission. Nous entendrons celui de Françoise Favreau, qui est directrice académique des services de l'éducation nationale, Étienne Bars, de la direction départementale de la cohésion sociale du Finistère. Il nous parlera du projet éducatif territorial, un outil qui se met en place progressivement depuis la réforme des rythmes scolaires lancée en 2013 et qui permet aux collectivités territoriales volontaires de proposer à chaque enfant un parcours éducatif cohérent avant, pendant et après l'école. Nous entendrons deux animatrices, Léna Gourmelin et Jeanne Briard. Elles apporteront leur témoignage sur l'animation dans deux contextes géographiques bien différents, puisque l'une travaille en Centre-Bretagne et l'autre à Rennes. Serge Coco du Bagad de Banalec, lui, s'est retrouvé un peu par hasard à animer des tapes à l'école publique de la commune, une expérience bénévole qui a donné naissance en milieu d'année, et ce, à la demande des enfants, à un atelier de découverte musicale au sein du Bagad. Autre success story, celle des Bals Bretons, organisée depuis 1998 par l'UCEP du Morbihan, l'Union sportive de l'enseignement du premier degré, et qui ont rassemblé cette année 15 000 élèves autour de la danse traditionnelle. C'est Laurent Muguet, le directeur départemental de l'UCEP, qui va nous parler de cette initiative, qui commence à essaimer dans les autres départements bretons. Et nous finirons cette émission, comme d'habitude, en parlant des projets de l'association BCD, les clichés vidéo, les dossiers thématiques en lien avec Bretagne et le web documentaire sur la Grande Guerre. Et tout de suite, direction le pays de Brocélian pour notre rubrique PCI, Patrimoine culturel immatériel. Michael Biernik, rappelez-nous en deux mots ce que l'on entend par PCI.
Alors le PCI, on a eu l'occasion de l'aborder de nombreuses fois dans les précédentes émissions, mais on pourrait le résumer comme un trésor populaire que l'on partage. Alors on sait qu'il y a une convention de l'UNESCO qui le protège, ce PCI. Alors ce patrimoine est transmis, souvent par l'oral, de génération en génération, et tout le monde le reconnaît un petit peu comme faisant partie de sa culture. Alors on peut citer les savoir-faire, comme la vannerie, la lutherie ou encore la broderie. On peut parler des connaissances liées à la nature, donc les vertus des plantes, et les pratiques comme la danse, le chant, le conte ou encore les jeux traditionnels.
La maison du Carrouge, c'est du galop, a officiellement été inaugurée le vendredi 22 mai dernier à Monterfil. Vous êtes allé y faire un tour, je crois, Michael.
Alors oui, et donc j'étais pas le seul, car on était assez nombreux. Il y avait des élus, des bénévoles et des amis de la Jopitre ce jour-là pour fêter l'inauguration de cette maison. Alors la Jopitre, c'est une association de promotion des sports et jeux traditionnels de Bretagne, et c'est cette association qui est à l'origine du projet. Alors, vous avez parlé de la maison du Carrouge, c'est-à-dire la maison du carrefour en galop, et donc dédiée. C'est donc un lieu dédié aux jeux traditionnels, mais l'idée, c'est que cette maison devienne un lieu de rencontre pour tous les joueurs chevronnés ou alors néophytes. Alors, elle est présentée comme un véritable parc de loisirs. Elle est ouverte à tous à partir de 6 ans et elle a la particularité aussi d'être accessible pour les personnes à mobilité réduite. Elle sera bientôt enrichie d'un circuit d'interprétation des sports et jeux, un beau projet qui ne date pas d'hier, comme nous l'explique le président de la Jopitre, Dominique Ferré.
Le projet de la Maison du Carreau, c'est une très vieille histoire, puisque c'est un projet qu'on a porté pendant 10 ans, avec beaucoup de constance et en étant très têtu. Et il y a eu plusieurs épisodes dans la conduite du projet, bien sûr, hein, pour aboutir finalement, il y a 3 ans, à une prise en charge par la communauté de communes de Brocéliande, qui avait déjà travaillé sur le projet précédent, on va dire, mais qui là, du coup, s'est véritablement engagé pour aboutir à la réalisation de la première partie du projet, c'est-à-dire la Maison du Carrouge. Alors, il faut tout de suite faire une précision. L'ensemble sur lequel on se trouve là s'appelle le Carrouge, et c'est un parc de loisirs dédié aux jeux bretons.
D'accord, okay, aux jeux traditionnels.
Aux jeux traditionnels bretons. Mais dans cet ensemble, il y a donc la Maison du Carrouge, qui est un bâtiment, un grand bâtiment, il y a 620 mètres carrés, avec à l'intérieur une salle de jeu donc, qui fait la moitié du bâtiment. Et puis, il y a ce qu'on appelle la Pré des Jeux. Pourquoi on l'appelle la Pré des Jeux ? Parce que c'est ici qu'à la Galizie en Fête, grande manifestation annuelle de Monterfil, hein, ont lieu les Jeux. Et dans cette Pré des Jeux, donc, on est en cours d'aménagement de ce qu'on appelle un sentier d'interprétation du patrimoine ludique de Bretagne. Et c'est un ensemble de 20 espaces de jeux qui vont offrir un panel de jeux de tout le territoire de la Bretagne. Ça n'est pas quelque chose qui est consacré à la Haute-Bretagne, c'est vraiment un espace qui a vocation à montrer la diversité des jeux traditionnels en Bretagne, 129 jeux répertoriés par nous, en tout cas jusqu'à aujourd'hui. Et dans ces 129 jeux, nous, on en a entre 60 et 70 ici, à Monterfil, à la Jopitre. Dans cet espace, il y aura la capacité, disons, à en pratiquer une bonne soixantaine. Alors, il y a des jeux de quilles. Plusieurs jeux de quilles, il y a des jeux de boules, plusieurs jeux de boules bien sûr, et il y a les jeux de palais, plusieurs jeux de palais évidemment, puisque même si en Ille-et-Vilaine on pratique le palais sur planche, hein, bon, bien sûr qui est le jeu emblématique, il en existe plein d'autres en Bretagne, et donc on proposera d'autres formes de jeux notamment qui sont pratiqués, certains encore pratiqués dans le reste de la Bretagne.
Alors il y a des jeux, vous m'avez parlé des jeux de quilles, des jeux de boules, je vois là-bas comme des poteaux, c'est des jeux de force, c'est ça ?
Tout à fait, là tout l'espace qui est au fond là-bas est à l'espace consacré aux jeux de force, ce qu'on appelle les sports athlétiques bretons. Ouais. Hein. Et l'implantation emblématique que l'on voit d'ici, c'est le lancer de la botte de paille.
Et donc dans la Maison du Carrouge, qu'est-ce qu'on va y trouver alors ?
Alors, dans la Maison du Carrouge, on va y trouver des jeux qu'on peut trouver aussi à l'extérieur, c'est-à-dire que cet espace relativement vaste permet quand même d'installer, par exemple, des jeux de quilles ou des jeux de palais, voire même des jeux de boules à l'intérieur. Ça va nous servir, effectivement, comme on le disait tout à l'heure, lorsque la météo bretonne nous pose un peu problème, ou bien lorsque la belle saison sera passée. Hein, et là, on pourra quand même recevoir les gens de manière plus prolongée, quoi, hein, dans la saison. Et on a la capacité là de mettre entre 10 à 12 jeux différents. Hein. Jeux de boules, jeux de palais, jeux de quilles, jeux d'intérieur, jeux de café, les jeux pour les enfants. Voilà, on a une capacité quand même d'accueil qui n'est pas négligeable. 90 personnes hein, qu'on peut mettre là dans l'espace. Donc ça nous servira effectivement d'offre dans l'arrière-saison,
on va dire. D'accord. Voilà. Et là, tu lances la boule et qu'est-ce qu'il faut faire ?
Faut le mettre en dessous.
D'accord, tout en haut. C'est plus sportif que la Game Boy, ça ?
Un peu plus.
Voilà, c'était donc l'interview de Dominique Ferré, président de la Jopitre, et vous pouvez bien évidemment retrouver tous les renseignements sur le site carouge.bzh. Et puisqu'on parle de Monterfil, notez sur vos agendas la Galésie en fête, c'est les 27 et 28 juin prochains et vous pourrez vous initier à tous ces jeux. Retour avec vous, Fulim Lanoé, sur la journée du 3 avril dernier consacrée au TAP. C'était une initiative importante de rassembler différents acteurs intervenant dans ce domaine périscolaire.
Oui, tout à fait. Alors, évidemment, qui n'a pas entendu parler des TAP avec les difficultés qui ont été évoquées par les médias depuis 2 ans pour ce qui est de leur mise en place. Alors forcément, BCD a perçu l'intérêt de ces TAP pour promouvoir la culture bretonne auprès des enfants et évidemment les autres associations culturelles bretonnes aussi. Mais donc, BCD n'a pas pour mission de faire à la place des autres, d'organiser ces TAP. Mais par contre, notre idée, ça a été de fédérer toutes les associations culturelles pour réfléchir à comment faire en sorte d'aller un petit peu plus loin avec ces TAP et la culture bretonne. Donc, on a travaillé depuis 2 ans sur ces TAP et dans le cadre d'un groupe de travail et on a mis en place un certain nombre d'outils, on a une formation notamment mais aussi un outil internet où on recense des activités qui sont proposées par les associations que les mairies peuvent aller regarder et faire leur marché en quelque sorte. Et surtout on a perçu que il y avait de nombreux acteurs sur cette question des TAP, que ce soit évidemment les associations de parents d'élèves, mais aussi les organismes d'État, les collectivités, les associations culturelles et des associations d'animation aussi. Et tous ces gens-là ne se connaissaient pas. On s'est dit qu'il était intéressant de se poser la question des TAP en général et d'essayer de réfléchir aux questions qui étaient posées et essayer de trouver des solutions sur ces TAP, mais en même temps de voir comment faire en sorte que la culture bretonne y trouve sa place. Donc on a organisé cette rencontre le 3 avril et l'intérêt c'était de faire se parler justement tous ces gens qui n'ont pas forcément l'occasion de se parler, et sur ce plan-là je pense que ça a été une réussite et langue a été prise entre les différents protagonistes et des liens ont été noués et je pense que ça va permettre d'aller un petit peu plus loin sur ce domaine-là.
Et parmi vos invités, Françoise Favreau, un certain nombre de collectivités locales se sont appuyées sur la richesse et le dynamisme des différents acteurs de la culture bretonne, écoles de musique, associations patrimoniales, afin de les solliciter justement dans le cadre de ces TAP. Françoise Favreau donc est directrice académique des services de l'éducation nationale, inspectrice d'académie. Elle nous parle des initiatives des communes en la matière.
On a au moins une trentaine de communes qui proposent des TAP qui sont centrées sur la culture bretonne. Alors soit les danses, soit les chants, soit des contes, soit de la culture patrimoniale et historique, architecturale, découverte du milieu, etc. Donc effectivement, c'est une forme de diffusion et de promotion de la culture bretonne qui est effectivement très intéressante, qui a beaucoup d'intérêt parce qu'elle permet d'abord de faire connaître la culture bretonne, évidemment, mais surtout parce qu'elle est portée aussi par un mouvement associatif, parce qu'elle permet de l'intergénérationnel, parce qu'elle permet aussi de la cohésion locale, du mieux vivre ensemble, et que ça s'inscrit parfaitement dans ce que nous recherchons aussi dans les TAP, qui sont à la fois des activités pour les enfants hors l'école, mais qui participent d'un projet global de vie des enfants et de leurs parents dans leur commune.
Ça a été difficile à mettre en place cette réforme. Ça a été beaucoup, beaucoup de travail pour les communes et les agents.
Beaucoup de travail, beaucoup de concertation. Et donc là, après 1 an de fonctionnement, alors deux années dans quelques communes, elles étaient à peu près 10% du Morbihan est parti l'année d'avant. Donc pour ces 10%, c'est la deuxième année. Pour les autres, c'est la première année. On commence déjà à dresser quelques bilans et quelques nécessités d'ajustement qui sont portées ça ou là, évoqués dans les comités de pilotage et qui font qu'on est en train de se projeter sur l'année prochaine en apportant quelques modifications.
Et les mairies sont demandeuses de ça, de mettre à l'honneur justement cette culture ?
Ah, mais je crois que c'est quelque chose qui se développe. Hein. D'ailleurs, c'est ce que je disais ce matin, on n'observe pas l'étape uniquement dans les communes où il y aurait des filières bilingues d'enseignement. Hein. Il y a des communes où il n'y a pas de filières bilingues d'enseignement, néanmoins il y a des TAP. Il y a des communes dans lesquelles il y a des filières bilingues d'enseignement et il n'y a pas de TAP Braise. Voilà, mais je crois que c'est une thématique qui va faire son chemin et qui va se développer à la fois à la rentrée 2015, mais dans les années qui viennent. Parce que c'est la culture bretonne, encore une fois, parce que c'est l'intergénérationnel et qu'elle permet de construire un collectif inclusif qui se fonde sur le passé et qui regarde l'avenir aussi, parce que c'est le vivre ensemble.
C'est une porte ouverte aux associations, c'est quelque chose qu'elles attendaient peut-être depuis longtemps ?
Je pense que c'est une porte ouverte aux associations, oui. Et puis ça offre l'opportunité pour les enfants de vivre des beaux moments, des moments forts, des moments intenses et importants et structurants pour eux. Hein, l'espace de la danse, l'espace de la musique, l'espace des contes et de l'histoire locale, ça, c'est, je pense, de nature à les passionner, à les intéresser et à leur permettre de faire des liens aussi avec ce qu'ils apprennent pendant le temps scolaire, tout à fait de façon pertinente.
Françoise Favreau, directrice académique des services de l'éducation nationale, confiante dans le développement du rôle de la culture bretonne dans ses temps d'activité périscolaire, une interview réalisée par Yaël Armoël. On va approfondir l'un des aspects de cette culture bretonne, Michael Bionic, avec la danse.
Alors, il n'y a pas que la danse, parce que là, je suis allé jusqu'à Rennes, j'ai poussé la porte du Cercle Celtique de Rennes, qui propose, elle aussi, lui aussi, le Cercle, des activités culturelles bretonnes sur ce temps périscolaire, principalement sur l'agglomération rennaise. Alors, Christian, que propose-t-il aux enfants ? C'est ce que nous explique Jeanne Bréard, animatrice au Cercle Celtique de Rennes.
On propose dans les écoles des ateliers culture et danse bretonne. Alors on précise les deux parce qu'on fait beaucoup de danse avec les enfants parce que c'est ce qui leur plaît facilement, on va dire. C'est facile de leur transmettre ça. Et culture dans le sens où on essaie d'ouvrir un peu les ateliers à d'autres sujets, notamment même ça peut être beaucoup de choses, la gastronomie, les contes, les légendes, les chansons aussi, c'est assez varié, mais toujours en thème, le thème principal sur la culture bretonne. Nous, au Cercle Celtique, notre cible principale, ça va justement être plutôt des enfants qui n'ont pas été sensibilisés à la culture bretonne, même si on travaille quand même à quelques écoles, même bilingues, mais globalement, on a des enfants qui ne sont pas... qui connaissent pas forcément leur région, qui connaissent pas forcément les danses d'ici. Et c'est d'autant plus intéressant puisqu'on essaie aussi de faire le lien. Alors, on a beaucoup de multiculturalité dans les écoles et on essaie de se servir de ça aussi pour créer de l'ouverture. Par exemple, quand on leur apprend 2-3 mots en breton ou en gallo, on essaie de faire le lien avec des enfants qui ont des origines soit africaine, soit de l'Europe de l'Est ou d'autres, et de créer du lien avec des mots qu'ils connaissent dans ces pays-là. Donc c'est ce qui nous intéresse aussi, quoi. Le fer de lance, c'est la culture. Après, notre fil rouge, c'est la culture bretonne, mais quand on peut créer de l'ouverture, c'est d'autant plus intéressant, quoi.
Quel accueil réservent les enfants à ce type d'activité ?
Plutôt bon accueil, heureusement. En fait, ça dépend pas mal de l'âge des enfants aussi. On s'adapte beaucoup à ça en fonction des... quand on a des maternelles, on va pas travailler tout à fait de la même façon qu'avec des primaires. Et on s'adapte aussi à leur rythme parce qu'en fonction des heures qui nous sont proposées, l'étape ont lieu soit le midi, soit le soir. C'est vrai que certaines activités passent mieux que d'autres. Donc c'est vrai qu'on va, par exemple, avoir des temps de danse assez facile pour le midi, mais il va falloir toujours revenir à un temps un peu plus calme avec de l'écoute musicale, par exemple, ou même du dessin, faire travailler un peu l'imagination, des temps plus calmes, parce que les maternelles, notamment, ont besoin de ça. On peut pas faire de la danse pendant une heure, c'est un peu trop difficile pour eux en milieu de journée, juste avant de manger, quoi.
Alors, l'étape avait un petit peu mauvaise presse au départ, lors du lancement. Qu'est-ce que vous avez pu rencontrer comme difficulté à mettre en place ces étapes-là?
Alors, au final, ça se fait plutôt bien. Les écoles sont assez demandeuses et ça leur allège aussi les temps de midi parce que ça veut dire que le personnel de l'école a moins d'enfants aussi à s'occuper en même temps. Donc nous, on en récupère un peu. Les difficultés principales, ça va plutôt être d'avoir des structures adaptées dans les écoles. Par exemple, une salle où on peut à la fois danser, à la fois se poser pour faire un peu de dessin. Alors certaines écoles ont des gymnases ou des salles de motricité qui sont hyper bien adaptées. Puis on a d'autres écoles qui sont un petit peu moins bien loties où ça peut des fois être un peu plus compliqué. Mais globalement, c'est le seul vrai problème et c'est largement contournable quoi comme problème. On arrive à s'adapter sans souci.
Quelle formation vous avez ? Parce que c'est vrai qu'il faut avoir quand même des connaissances assez larges en culture bretonne. Est-ce que vous êtes formé vous-même ou est-ce que c'est quelque chose que vous avez acquis au fil du temps ?
Alors moi personnellement, j'ai déjà une sensibilité par rapport à la culture bretonne, ça c'est totalement personnel, mais ensuite moi j'ai une formation plus dans l'archéologie, le patrimoine, je suis guide conférencière à côté, donc tout ce qui est culturel m'intéresse et donc je fais beaucoup de recherches. Et au cercle celtique, on a un temps réservé à ça aussi, qui nous permet de nous enrichir au fur et à mesure pour préparer nos ateliers correctement. Puis ce qu'on propose en atelier, c'est 5% de la recherche qu'on fait derrière. Enfin, on en a toujours sous le coude, quoi. Puis selon la réceptivité des enfants, on va dire, on peut aller plus ou moins loin. Donc, il nous en faut toujours un peu plus au cas où. Donc, ouais, c'est de la recherche qu'on va faire en plus et une sensibilité qu'on a déjà à la base. Et après, on a toutes des formations, parce qu'on est plusieurs animatrices au cercle celtique à faire des tapes, on a toutes des formations différentes, mais qui sont assez complémentaires d'ailleurs. Donc, voilà.
Qu'est-ce qui pourrait aider, si vous aviez un souhait pour l'étape, qu'est-ce qui pourrait être une idée pour que ça se développe, pour que ce soit encore plus simple ?
Très bonne question. c'est vrai que là, c'est encore le début et ça se ressent dans certaines écoles. Ce qui pourrait aider, c'est parfois que les écoles se soient, enfin, vraiment intégrer ce concept vis-à-vis des enfants aussi. Parce que c'est vrai qu'on peut avoir ce problème-là des fois des écoles qui vont proposer aux enfants au jour le jour quoi. Si vous voulez aller à l'atelier, allez-y. Vous voulez pas y aller, n'y allez pas. Et nous, c'est un petit peu embêtant pour faire de la vraie transmission, de la transmission solide avec, on va dire, une sorte de programme évolutif. Donc quand ce sera vraiment intégré aussi dans les écoles et bien implanté, je pense que aussi nous, on se sentira mieux intégré et on pourra aller plus loin aussi avec les enfants. Ce serait beaucoup plus simple. Mais c'est le début pour le moment. Je pense que ça se fera naturellement.
Jeanne Bréard, donc animatrice au Cercle Celtique de Rennes. Vous êtes à l'écoute de l'émission Cévenas de Rio sur le thème d'étapes, les temps d'activité périscolaire. On va faire une première pause musicale. On va écouter un extrait de l'album Balafent. C'est Lubapar qui a produit cet album il y a 2-3 ans maintenant. On va écouter Arvoir. Et c'est un bel exercice de diction et un bel exercice pour apprendre les parties du corps en langue bretonne. Arvoir.
Gibé.
Penaos e reimi kan am an eus mi begebe. Penaos e reimi kan am an eus mi begebe.
Ar val fi deus kolé di laga. Ar val fi deus kolé di laga. I laga di daou laga.
Zeout a gibé.
Penaos e reimi kan am an eus mi begebe. Penaos e reimi kan am an eus mi begebe.
Ar voile rideux collé d'ichou.
Ichouk agigouk.
Il laga di daou laga.
Zéout agibik.
Penaos e reimi kan am an eus mi begebe. Penaos e reimi kan am an eus mi begebe.
Ar voile rideux collé d'ichou. Ar voile rideux collé d'ichou.
I heini lost di hof.
Ischuk a gegup!
I laga di daou laga.
Zeout a gibek!
Penaos e reimi kan am an eus mi begebe. Penaos e reimi kan am an eus mi begebe.
Ar voal fi deus kolé di asken. Ar voal fi deus kolé di asken.
I asken, i diou asken.
I haini lostigof.
Ischuk a gegup!
Il lagad i daou lagad.
I zeout hag i bet.
Penaos e reimi kan amant eus mi peg e be. Penaos e reimi kan amant eus mi peg e be. Ar voal c'hi deus kolet di morzet. Ar voal c'hi deus kolet di morzet.
Divarzet
e di divarzet. I osken e
di osken. I hain il lostigo.
I zeout hag i gof.
I lagad i daou lagad.
I zeout hag i bet.
Penaos e reimi kan amant eus mi peg e be. Penaos e reimi kan amant eus mi peg e be.
Ar voal c'hi deus kolet. Ar voal c'hi deus kolet. I glin, i fenglin, i daoulin.
I marzet e divarzet.
I oskel, i diwoskel.
I hain il ostihof.
I chouk hag i gouk.
I lagad i daoulagad.
I zeout hag i beg.
Penaos e reimi kan amant eus mi peg e be. Penaos e reimi kan amant eus mi peg e be. Ar voal c'hi deus kolet digar. Ar voal c'hi deus kolet digar.
Gar e hof gar e diouha.
I glin, i fenglin, i daoulin.
I marz e di divarz.
I oskel, i diwoskel.
I hain il osti hof.
Chouk hag i gouk.
I lagad i daoulagad.
I zeout hag i beg.
Penaos e reimi kan amant eus mi peg e be. Penaos e reimi kan amant eus mi peg e be.
Ar voal c'hi deus kolet di bi. Ar voal c'hi deus kolet di bi.
I biz, i bizit.
Gar i hof gar i diou ha.
I glin, i fenglin, i daoulin.
I marzet, i divarzet.
I oskel, i diwoskel.
I hain il osti hof.
Chouk hag i gouk.
I lagad, i daoulagad.
I zeout hag i beg.
Penaos e reimi kan amant eus mi peg e be. Penaos e reimi kan amant eus mi peg e be. Ar voal c'hi deus kolet i vi. Ar voal c'hi deus kolet i vi.
I vin, i vin aou.
I biz, i bizut.
Gar, i hof gar, i diou ha.
I glin, i fenglin, i daoulin.
I marzet hag i divarzet.
I oskel, i diwoskel.
I hain il losti ho.
I chouk hag i gouk.
I lagad i daou lagad.
I zeout hag i beg.
Penaos e reimi kan amant eus mi peg e be. Penaos e reimi kan amant eus mi peg e be.
Ar voilà, c'était donc un extrait de l'album Balafent de l'Ubapar et vous pouvez aller sur leur site ubapar.org. La culture bretonne, ce n'est pas que le chant ou la danse, c'est aussi son patrimoine bâti et naturel. C'est l'un des axes d'action de l'association Cisindel qui gère la maison du patrimoine implantée à Locarn dans les Côtes d'Armor. Forte de 3 animateurs, elle fait découvrir le patrimoine du centre Bretagne comme les fameuses Landes de Locarn justement. Léna Gourmelin en est la responsable. Elle nous explique la façon dont ils ont été sollicités et nous détaille les actions menées.
Sur le territoire ici, en fait, c'est la communauté de communes du Crais Breizh qui a pris en charge l'organisation, la coordination d'étapes pour les mairies qu'ils souhaitaient. Donc je pense que toutes participent sur le territoire. Ça permet en fait de coordonner, d'avoir aussi un catalogue, on va dire entre guillemets, d'animateurs plus importants pour chaque mairie, puisque ça peut être assez difficile de trouver des animations pour tous les niveaux et puis pour tous les groupes, puisque dans certaines écoles, il y a pas mal de groupes, puisque les groupes, c'est maximum 18 ans. Enfants, en fait, à chaque fois. À partir de là, la communauté de communes a recherché soit des animateurs indépendants, soit des structures associatives et leur a demandé si elles étaient partantes pour animer des temps d'activité périscolaire.
Sur quelle matière, sur quel sujet portent les activités que vous proposez ?
Pour la Maison du Patrimoine, on a 2 thèmes. Il y a les animations nature qui sont proposées par Mathilde et Fanny. Donc là, ça va être de la découverte des oiseaux, par exemple. Ça va être aussi de la création artistique à partir de matériaux naturels ou de tout ce qui a trait aussi à l'imaginaire par rapport à la nature. Et puis, pour ma part, moi, je travaille sur le patrimoine, vraiment au sens large. Ça peut être le patrimoine breton, mais c'est aussi, par exemple, un temps sur la découverte des peuples du monde pour montrer qu'il y a d'autres cultures et que ces cultures-là ont aussi leur patrimoine qui sont intéressants à découvrir.
Sur quel point vous êtes vigilant lorsque vous êtes en temps d'activité périscolaire ? Comment vous travaillez avec les gamins ?
On essaye de faire en sorte que ce ne soit pas justement des temps d'activité, d'animation qu'on peut apporter pendant l'école, en fait, mais que ce soit vraiment un temps plus de découverte pour les enfants, que ça reste de la découverte et du loisir. Voilà, on est quand même souvent accueillis dans les locaux des écoles, donc c'est une des difficultés pour les enfants, justement, sans doute, de faire bien la part des choses. Mais le but, voilà, nous, c'est vraiment qu'ils y trouvent du plaisir, qu'ils découvrent différentes choses et ensuite ça leur donnera peut-être envie d'approfondir certaines choses, mais voilà, c'est des temps de découverte, de loisirs et vraiment je pense que le point vraiment positif pour l'étape, c'est de permettre à des enfants de découvrir une gamme très très large d'activités. Ils vont découvrir aussi bien voilà, du patrimoine, des activités nature, différents sports qu'ils n'ont peut-être pas l'habitude de pratiquer. Il y a beaucoup qui connaissent le foot mais pas grand chose à côté. Ça va être aussi tout ce qui va être création artistique. C'est aussi par exemple la découverte de la façon dont on fait un film avec les films à Mélionec. Donc voilà, c'est vraiment leur ouvrir les horizons. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est très positif.
Qu'est-ce que ça vous apporte à vous, structure du territoire, de participer à ce type d'activité ?
Là, c'est plus, on va dire déjà, tout simplement, très concrètement au niveau économique. C'est aussi des animations complémentaires par rapport au programme que nous, on peut proposer. Sur des temps sur lesquels on n'était pas forcément présent, puisque nous, on n'est par exemple pas centre de loisirs, donc on n'accueille pas d'enfants les mercredis ou les petites vacances. C'est aussi permettre de découvrir les différentes écoles, de pouvoir aussi découvrir et travailler avec d'autres animateurs. Donc c'est vraiment aussi un temps de mise en réseau finalement et d'échange qui peut être très intéressant.
Est-ce que vous vous êtes heurté à certaines difficultés au début? Vous êtes habitué à accueillir ici des groupes d'adultes généralement. Est-ce que vous vous êtes heurté à quelques questionnements, quelques difficultés au départ?
Les difficultés, ça tient sans doute à la première année de mise en route. C'était les questions de locaux, en fait, suffisamment bien adaptés pour accueillir des groupes d'enfants. Selon les écoles, c'est pas toujours évident. C'est aussi la taille des groupes d'enfants. Ça pose question, je pense. C'est toujours, normalement, en centre de loisirs, on est sur des groupes de 10-12 enfants maximum. Là, on a des groupes qui montent jusqu'à 18. Ça a l'air de rien, mais 6 enfants en plus pour mener un groupe, pour réussir à avoir une activité, à suivre bien tous les enfants, ça peut être compliqué. Donc c'est plus ça, c'est des questions plus sur l'encadrement, en fait, qui se sont posées au début. Et puis c'est aussi l'histoire d'une activité qui n'est pas sur le temps scolaire mais qui se passe à l'école. Il fallait que chacun trouve ses marques. Et c'était peut-être pas forcément évident non plus pour les enfants d'avoir finalement beaucoup de personnes en référent au début, alors qu'ils avaient l'habitude d'avoir l'instituteur, l'ATSEM, un ou deux animateurs. Là, ils ont souvent deux ou trois animateurs entre les cycles, c'est entre chaque période de vacances, donc ça fait beaucoup pour eux aussi à intégrer.
Quels sont les retours que vous avez des enseignants et des élèves?
Alors les retours pour les élèves, c'est plutôt positif, parce que voilà, ils sont contents de découvrir différentes choses, même si certains nous disent carrément que le patrimoine ou la nature, c'est pas forcément leur truc au départ et qu'ils préféreraient faire du sport ou autre chose. Mais voilà, au moins ils ont testé quelque chose. Par rapport aux enseignants, maintenant on sent qu'on va peut-être sans doute pouvoir plus travailler avec eux. Dans un premier temps, on les sentait vraiment très très méfiants en fait vis-à-vis des TAP. C'était vraiment un gros changement. Et puis c'était des temps hors période scolaire, donc ils se sentaient peut-être pas tous forcément très concernés. Mais maintenant, selon les écoles, on a aussi de bons retours. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qu'il va falloir travailler si les TAP se maintiennent sur les années futures, c'est vraiment de réussir à mettre en place des collaborations entre les animateurs, les enseignants, pour pouvoir avoir des programmes assez riches pour les enfants, en fait.
Léna Gourmelin, responsable de la Maison du patrimoine à Locarne, en Côte d'Armor. Philippe Lanoé, Léna Gourmelin, à l'instant, soulignait un petit peu la méfiance de certains enseignants. L'étape, c'est une initiative qui, on le sait, a suscité pas mal la polémique. On est en train de parler là d'un temps périscolaire, mais ça nous fait réfléchir sur la façon même d'apprendre et la façon d'enseigner en France. On est dans une tentative de changer un petit peu la façon de voir les choses, tout simplement.
Oui, tout à fait. Alors, j'ai envie de revenir sur deux remarques qui ont été faites par Françoise Favreau
oui.
et par Jeanne Bréard,
que l'on a entendu tout à
l'heure. Elles, toutes les deux parlent de lien social. Françoise Favreau de lien intergénérationnel. Jeanne Bréard de rencontres d'enfants issus d'autres régions et c'est vrai que l'idée qui est derrière tout ça c'est effectivement de créer du lien social et c'est pour ça que c'est un fil rouge qui doit être que l'on doit retrouver tant dans le cadre des activités de temps périscolaire que dans le cadre scolaire. Donc il n'y a pas à opposer en fait les activités de temps périscolaire qui sont effectivement peut-être des activités plus de découverte, moins où on est moins dans l'apprentissage
pur et dur,
et puis le temps scolaire où on est plus dans l'apprentissage, mais où il peut aussi y avoir des moments de respiration, de voilà. Donc c'est une continuité qu'il faut mettre en place. Et je pense qu'il ne faut pas opposer en fait le temps scolaire, le temps périscolaire et extrascolaire. Et c'est ce qui est bien perçu d'ailleurs par les services de l'État, enfin de l'éducation nationale, notamment par le biais de ces plans d'éducation de territoire que l'État essaye de faire mettre en place, parce que justement c'est pour créer cette continuité entre tous ces temps-là. Et donc c'est notamment ce jour-là, c'était Étienne Barthes qui était là et qui est porteur de ces... travaille à la direction départementale de la cohésion sociale et qui est l'organisme qui donne l'aval pour ces plans d'éducation de territoire qui sont mis en place par les communes. Et ça, c'est important.
Et bon, voilà, on va l'entendre justement, Étienne Barthes, puisqu'on l'a vu, de nombreux acteurs interviennent, collectivités territoriales, éducation nationale, associations, pas facile de coordonner tout cela. Une circulaire en date du 20 mars 2013 précise les modalités de fonctionnement des projets éducatifs territoriaux. Je vous propose d'écouter l'analyse d'Étienne Barthes dont vous parliez à l'instant. Il est conseiller technique et pédagogique à la direction départementale de la cohésion sociale du Finistère en charge de ces projets. Il nous en explique le sens au micro d'Anna Jaouen.
PEDT, c'est comme son nom l'indique, un projet qui se préoccupe de l'éducation, hein, donc des enfants et des jeunes d'un territoire, et qui a pour ambition de rassembler dans la réflexion tous les acteurs éducatifs du territoire, c'est-à-dire bien sûr l'école, mais aussi les parents, les associations sportives et toutes les structures et institutions qui se préoccupent d'éducation sur le territoire, même si elles sont pas, comment dire, ancrées sur ce territoire. Je parle des institutions notamment.
Et quand on parle de territoire, justement, à quelle échelle travaille-t-on pour mettre en place un PEDT ?
Généralement, ce sont les collectivités locales, les communes, qui animent cette concertation et cette réflexion autour du projet, d'un projet partagé. Mais on peut aussi avoir des communautés de communes qui se saisissent de la question, et notamment en milieu rural. Et puis aussi des regroupements de communes, de deux ou trois communes qui ont l'habitude de travailler ensemble, ou pas d'ailleurs, mais qui pensent trouver des avantages à travailler ensemble à l'élaboration du projet, plutôt que chacune de leur côté.
Concrètement, si on rentre dans le détail de la mise en place, de l'élaboration et de la mise en œuvre d'un projet éducatif de territoire, ça se passe comment ? À quelle échelle et sur quelle durée ?
Alors, le projet éducatif de territoire peut être élaboré pour une durée de 3 ans. Bon, ça prend un certain temps de préparation. La mobilisation pour la concertation de tous les acteurs, c'est quelque chose qui prend du temps, surtout quand il n'y a pas des habitudes déjà prises sur les territoires. Et le projet éducatif de territoire est signé donc par la DASEN, la directrice académique des services de l'éducation nationale, l'inspectrice d'académie. Le préfet et le maire de la commune ou le président de la communauté de communes si c'est un projet porté par une communauté. et pour 3 ans, mais 3 ans maximum. C'est-à-dire qu'il y a des communes qui ont élaboré un projet pour 1 an, disant que c'était expérimental et qu'ensuite ils allaient voir s'il fallait réajuster pour l'année suivante. Et voilà, donc il y a différents cas de figure, mais la durée maximum de ce premier projet, c'est 3 ans.
Et les premiers projets éducatifs de territoire ont été signés à quel moment ?
Moi, je vais vous parler pour le Finistère, mais il y en a eu d'autres dans d'autres départements. Les premiers ont été signés en 2013, pour la rentrée scolaire 2013.
Et ces PEDT ne concernent pas uniquement l'ETAP ?
En fait, l'ETAP, c'est un sigle barbare qui a été inventé, qui signifie tant d'activités périscolaires, que moi, je préfère traduire par tant d'accueil périscolaire, pardon. Le projet, normalement, mobilise tous les acteurs, y compris les acteurs scolaires, et donc a pour ambition aussi de prendre en considération la globalité de l'enfant dans tous ses temps éducatifs. Les nouveaux temps libérés par la réforme de l'organisation scolaire sont des temps périscolaires au même titre que l'étaient déjà les temps après 16h30 ou avant le début de l'école. Simplement, on a mis un fort accent sur les activités. Beaucoup de collectivités en reviennent d'ailleurs après un an d'expérience pour proposer un projet d'animation qui soit beaucoup plus souple et beaucoup moins centré sur des activités pour l'activité.
Et quelle est l'articulation entre le temps scolaire et périscolaire dans le cadre de ces PEDT ?
Le cahier des charges des PEDT prévoit que les projets d'animation périscolaire soient coordonnés ou articulés avec les projets d'école. Ça se passe pas toujours comme ça. C'est-à-dire qu'il y a des endroits où ça se passe très bien, où les projets d'école sont communiqués, un travail est fait entre les enseignants et les équipes d'animation pour essayer de travailler en complémentarité, en bonne intelligence, et sans se marcher sur les pieds et sans que les uns fassent des choses complètement déconnectées de ce que font les autres. Puis il y a d'autres endroits où c'est plus difficile. Mais c'est un objectif de ces projets de permettre aux différents acteurs de travailler en bonne intelligence, quel que soit leur champ de compétences, et bien sûr dans le respect des compétences de chacun, mais de travailler en bonne intelligence dans l'intérêt de l'enfant.
On peut faire un premier bilan au niveau du département du Finistère sur le rôle d'ETAP dans la transmission de la culture et des langues de Bretagne. Est-ce que ça, vous pouvez le mesurer, l'apprécier, justement, en accompagnant les projets éducatifs de territoire ?
Alors, je peux pas le mesurer de façon très précise, mais par contre, avoir une vision un peu globale du déploiement de la réforme des rythmes éducatifs sur le Finistère, je peux dire que dans beaucoup de cas, des activités qui font appel à la matière culturelle de Bretagne sont au moins proposées, affichées comme propositions d'activité dans le cadre des activités périscolaires. Alors après, souvent elles s'appuient sur des ressources locales, hein, sur le cercle celtique de la commune ou sur un professionnel, un musicien qui habite sur le territoire ou un artiste, peintre ou etc. Et donc c'est assez difficile c'est surtout assez fastidieux à collecter toutes les informations pour savoir exactement où on fait avec la culture bretonne ou pas. Mon sentiment, c'est que ça se fait dans beaucoup de communes.
Étienne Bars, conseiller technique et pédagogique à la direction départementale de la cohésion sociale du Finistère. Philippe Lannoy, on va parler de l'avenir de ces temps d'activité périscolaire. Il faut savoir qu'en 2016, je crois, seules les communes ayant mis en place un projet éducatif de territoire signé par les partenaires institutionnels percevront une aide de 50 euros par élève scolarisé sur la commune et 40 euros supplémentaires si elles peuvent bénéficier de la dotation de solidarité urbaine ou de la dotation de solidarité rurale. La coordination de tout cela, c'est la solution de l'efficacité. Puis en matière de culture bretonne, une coordination à l'échelle régionale peut-être ?
Oui, alors c'est vrai que d'abord l'avenir, il est malheureusement lié aux questions budgétaires. Et c'est vrai que ça a été l'écueil principal, c'est le manque de moyens dont disposaient les communes sur qui on a remis le bébé.
Oui, ça leur est tombé dessus comme ça.
Ça leur est tombé dessus. Hein. Donc voilà, donc ça c'est le... Alors, j'avais cru comprendre que ces dotations seraient pérennisées. C'est toujours un petit peu compliqué de prédire l'avenir. Toujours est-il que une chose qui est sûre, c'est que il est important que les associations culturelles bretonnes puissent participer à ces PEDT et intégrer justement cette mise en place de véritables programmes d'animation pour la vie scolaire et culturelle et les animations au niveau local, que ce soit au niveau des communes ou des communautés de communes. Et autrement, ce qui est important aussi, c'est que les associations culturelles bretonnes s'organisent pour pouvoir proposer des animations clés en main avec des animateurs formés et avec les moyens, évidemment, les moyens matériels qui vont avec. Et ça, c'est, je pense que il serait bien que les associations culturelles bretonnes puissent mettre sur pied un système, je ne sais pas, j'ai pas de recette, une structure où on puisse fédérer tout ça de façon à être une vraie force de proposition auprès des collectivités, parce que les collectivités locales ont un volant d'animateurs locaux. Enfin bon, mais si on veut renouveler l'étape sur le long terme, si on ne veut pas que envoyer les enfants pendant des années aller faire du foot ou du ping-pong, il faudra avoir ces ressources qui viennent pas forcément de la commune, mais qui peuvent être des ressources issues du milieu culturel environnant, au moins du pays autour, quoi.
Vous êtes à l'écoute de l'émission Cévena du Rio. On va continuer à décliner les interventions des différents acteurs de la culture bretonne après la danse, le patrimoine naturel. Je vous propose d'approfondir le travail des bagadous. Serge Coco fait partie du bagad de Banalec et c'est la mairie qui les a sollicités. Ce qui est très intéressant ici, c'est que les enfants concernés ont vraiment pris goût à cet atelier. Ils ont voulu aller plus loin et ils ont souhaité que les activités se poursuivent au-delà de ce qui était initialement prévu. Serge Coco nous en dit davantage, toujours au micro d'Anna Jaouen.
Le bagad, lui, est intervenu spécialement à la demande de la mairie sur le créneau de janvier à février, donc les vacances, entre les vacances de Noël et les vacances de février. Et puis ensuite, comme l'activité a reconnu un peu de succès, on nous a demandé de pouvoir intervenir sur le deuxième créneau, donc de février aux vacances de printemps. Alors en fait, nous on a pu organiser les choses de cette manière-là. Les enfants avaient un créneau le mardi et le vendredi à suivre avec nous. Ensuite, il avait une autre activité initiée par les services d'animation de la commune. Donc ça pouvait être la semaine suivante sport pour eux, des activités d'éveil autour de jeux ou d'activités manuelles par exemple. Donc nous on intervenait en fait sur deux séances à suivre et le roulement se faisait de semaine en semaine. Donc les classes en fait changent d'activité toutes les semaines.
Comment se déroule un atelier TAP d'une séance d'une heure et demie dans une école?
Alors en fait, comme on avait le droit à deux sessions d'1h30, on a travaillé en deux temps. La première séance était une séance essentiellement de découverte des instruments. Donc on a pu leur faire découvrir voilà la grosse caisse, la caisse claire, les éléments de percussion d'un bagad. Et puis en même temps, la cornemuse et la bombarde. Donc on a fait la démonstration d'instruments, on a joué quelques airs, hein, tout simplement. Souvent la réaction des enfants, c'est une réaction assez impressionnante du volume sonore, hein, parce que c'est un instrument qui développe beaucoup de sons. Et puis ensuite, on leur a montré aussi avec quels instruments on travaillait, donc la petite flûte irlandaise, puisque c'est l'instrument sur lequel on répète quand on fait de la bombarde, ou le practice de cornemuse pour la cornemuse. On les a mis les instruments en main pour leur faire découvrir ce genre de choses. On a fait un petit apprentissage de la danse aussi, apprendre à danser un petit tantardro, tout simplement, sur cette première séance. Et puis sur la deuxième, on leur a plutôt fait quelque chose d'un peu plus ludique, Donc une animation un peu type blind test, hein. Le but c'était de leur faire écouter différents morceaux de musique. Donc on aurait pu leur faire découvrir voilà des morceaux d'ensemble des Bagadou sur les concours par exemple qui peuvent être réalisés chez Sonorion, des morceaux un peu plus populaires avec des choses qui ont pu être faites avec le Bagad Quimper et Red Cardel par exemple, ou des morceaux de Dan Arbraz. En même temps on a mis des éléments un peu perturbateurs, on leur a fait écouter des morceaux de Didier Esquivant, donc du coup ils ont pu comprendre que la musique bretonne c'est pas que les bignous, mais aussi de la musique bretonne peut se jouer au piano. Et puis voilà quelques petites choses un peu plus ludiques où ils savent très bien reconnaître les musiques de leurs films favoris par exemple.
Et vous, bénévole au sein du Bagad de Banalec, avez-vous reçu une formation pédagogique pour encadrer cette étape ?
Directement par le Bagad, moi non, parce que en fait, je suis issu de la filière un peu de l'animation et de l'éducation populaire, donc en fait, je maîtrise assez bien les techniques d'animation auprès des jeunes enfants. Par contre, c'est vrai que dans les différents intervenants, pas forcément du Bagad, mais par contre, qui étaient autour de nous dans les activités, c'est certainement un des points qu'il faudra réussir à développer dans l'avenir, parce que au sein de la mairie de Banalec, des gens de très bonne volonté n'étaient pas forcément issus de cette formation-là ou de cette culture-là. Et donc, des fois, on était en train d'échanger un peu nos méthodes ou nos outils pédagogiques pour réussir à faire en sorte que leurs activités à eux aussi se passent bien.
La mise en place de TAP dans les écoles de Banalec a débouché très concrètement pour l'association Arbanal Aour, Bagad de Banalec, sur la création en milieu d'année d'un atelier musical pour continuer l'activité de découverte de la musique bretonne.
Oui, en fait, pour le coup, on n'avait pas du tout réfléchi à la poursuite de l'activité. C'est plutôt les enfants qui nous ont incités à poursuivre le projet et puis l'aventure avec eux, parce que très vite, on a eu des enfants qui sont venus nous solliciter au sein du Bagad pour pouvoir poursuivre l'aventure musicale avec nous. Donc du coup, suite à leur demande, on a créé un petit atelier musical, une heure le samedi matin, quelque chose d'assez modeste, mais sur lequel finalement, on a récupéré une petite dizaine d'enfants à suivre cette activité. Ce sont des enfants qui sont encore un tout petit peu trop jeunes pour vraiment de l'enseignement de fond au niveau de la musique, mais ce qu'on veut avant tout c'est les ouvrir à cette culture, les ouvrir à la musique. On fera certainement des choses aussi au niveau de la danse, puisque l'avantage effectivement de l'ensemble Arbanal Aour c'est de bénéficier aussi du cercle, donc du coup de pouvoir aussi les emmener sur la danse. Et le but n'est pas d'en faire des musiciens tout de suite dès l'âge de 8-9 ans, mais de pouvoir les ouvrir vraiment à la musique.
Alors l'avenir d'étape musique bretonne au sein de l'école publique de Banalec à la rentrée prochaine ?
Alors pour l'instant rien n'est défini. Ce qui est sûr c'est que avec le succès qu'on a eu cette année, on pense qu'on va nous demander, et puis nous on a certainement très envie aussi de le maintenir, de poursuivre cette aventure. La vraie problématique, comme dans bon nombre d'associations et puis voilà dans le paysage associatif aujourd'hui, tout le monde est un peu soumis à ça quelle que soit l'activité, c'est quelles ressources au niveau des bénévoles seront disponibles à la rentrée de septembre. On va réfléchir nous à la poursuite de cette activité, parce que ça nous permet aussi de monter nos effectifs, hein, tout simplement, d'avoir plus d'enfants qui ont envie de participer à ce projet de faire de la musique en Bagad. Et donc on va travailler en fait sur les deux possibilités, à la fois de refaire des activités au sein des TAP dans les écoles publiques, et en même temps de poursuivre aussi notre atelier musical, parce que certains enfants seront encore peut-être trop jeunes pour acquérir la possibilité de pouvoir rentrer à l'école du Bagad directement, et donc on va pas les laisser sur le bord du chemin. Donc il va falloir qu'on arrive aussi à trouver de la ressource pour pouvoir maintenir cette activité d'atelier.
À quel âge peut-on intégrer le Bagad de Banalec ?
Aujourd'hui, je dirais qu'au-delà de l'âge, c'est plutôt la première choix d'avoir l'envie de faire cette musique-là et de venir frapper à la porte. Mais surtout, on a décidé d'arriver à accentuer l'accueil voilà, à partir du CP, donc c'est des enfants qui ont 7 ans. On a des enfants qui ont 9 ans dans le groupe, et souvent, vraiment, sur une activité régulière d'apprentissage d'un instrument, il faut démarrer vers 9-10 ans. C'est un peu les premiers âges pour ça.
Serge Coco du Bagad de Banalec, une interview réalisée par Anna Jaouen. Avec le Bagad de Banalec, nous avons l'exemple de TAP qui ont débouché sur la création d'activités musicales et sur le développement de ces activités culturelles bretonnes qui ont touché un public plus large. Du coup, je vous propose maintenant de découvrir une action qui a fait le chemin inverse finalement. L'initiative de l'UCEP du Morbihan, l'Union sportive de l'enseignement du premier degré, les Bals Bretons, organisées par un partenaire institutionnel, donc l'UCEP, en direction des élèves de l'enseignement public et qui a débouché sur des TAP. Anna Jaouen a rencontré Laurent Muguet, directeur départemental de l'UCEP Morbihan. Il nous explique l'objectif de cette action.
L'idée, c'était de faire découvrir aux enfants des écoles publiques donc la culture, le patrimoine breton à travers la pratique de danse. Il y a eu tout un travail de fait auprès des enseignants pour qu'ils s'initient à un répertoire de danse, qu'ils apprennent ces danses aux enfants de leur classe. Et donc, à l'issue d'un cycle d'apprentissage, l'idée, c'était de réunir 150 ou 200 enfants dans une salle, une belle salle en général, avec une animation, c'est ce qui fait la spécificité des bals bretons, par des musiciens, de vrais musiciens, qui animent en fait les bals.
Là donc, on est sur une activité qui se déroule sur le temps scolaire. Comment s'est passée concrètement la formation des enseignants ?
La formation des enseignants, deux axes. Le premier, c'est qu'on a réussi pendant de nombreuses années à intégrer les animations pédagogiques, donc qui sont spécifiquement dédiées aux enseignants. Mais parallèlement, au niveau de l'UCEP, on a aussi mené des formations, donc le soir, ouvertes aux enseignants, mais aussi aux parents ou à des animateurs. Sur cette année, nous avons eu 57 manifestations pour près de 7500 enfants, donc c'est un projet qui recueille l'adhésion de beaucoup d'enseignants et on y voit beaucoup de classes.
Pour un enseignant, c'est un projet qui s'étale sur combien de temps ?
En général, les enseignants se préparent 1 à 2 mois avant la participation au bal breton. Ce qui est très intéressant, c'est que on emmène tout le monde dans la danse pour animer ces bals, etc. Souvent, je fais appel aux enfants pour qu'ils aillent chercher les parents. Même si les parents ne connaissent pas les danses, l'idée, c'est que les enfants puissent leur apprendre. Donc, il y a aussi une transmission parfois qui se fait de l'enfant vers les parents pour apprendre des danses du répertoire breton.
Qui finance ce projet ?
Il y a une participation qui est demandée donc aux enfants, enfin aux familles, aux classes, aux amicales laïques. C'est un budget de 30 à 40 000 euros sur l'année. Il y a d'abord le temps de travail, donc on a une salariée qui coordonne le tout, c'est énorme. Et puis après, il y a la rémunération des musiciens, donc c'est aussi important. Et donc c'est un coût. Donc les ressources, c'est dans le Morbihan, c'est une participation des enfants, des familles, des classes, ce que je disais tout à l'heure. C'est aussi une recherche de partenaires, et donc on a un partenaire institutionnel qui est le Conseil Général, qui aussi abonde. Quand on va former sur Rennes les étudiants du CFMI qui interviennent sur nos petits bals, c'est des formations pour l'instant pour lesquelles on n'est pas du tout rémunéré.
Quelle continuité, quel lien avec l'étape et ce projet de bal breton ?
Tout l'enjeu là, c'est que l'étape, dans la mise en œuvre d'étape, c'est qu'il y ait une cohérence aussi avec le temps scolaire. Donc c'est une action qui est très importante dans la culture des écoles, très importante dans les familles. Et donc c'est comment on peut aller plus loin. Et l'étape permettrait d'aller plus loin, non pas dans la mise en œuvre, parce que ça fonctionne bien, mais sur des prolongements possibles, c'est-à-dire éventuellement apprendre d'autres danses, les apprendre différemment, aller sur le chant, aller sur la pratique de la langue bretonne, aller sur des activités avec lesquelles on a des partenaires qui sont par exemple les Jeux Bretons, la Falsab, ou etc. Donc je pense qu'à partir de cette action Bal Breton, l'enjeu c'est de la prolonger pour que dans l'étape, on soit dans une cohérence d'un parcours et qu'on puisse proposer aux enfants toute la richesse de la culture bretonne. À mettre en œuvre, c'est un petit peu plus compliqué, d'où la recherche là de partenaires, d'où la question sur la formation, d'où la question sur le financement.
Laurent Muguet, directeur départemental de l'UCEP Morbihan, l'Union sportive de l'enseignement du premier degré. C'était une interview réalisée par Anna Jaouen. On va terminer cette émission avec l'actualité de BCD. Michael Bionic, vous avez tenu votre assemblée générale et je crois que vous avez un nouveau président.
Alors, tout à fait, Christian. Donc, Bretagne Culture Diversité réunissait son assemblée générale le samedi 6 juin au Vauban à Brest. Alors, c'était l'occasion pour ses membres d'adopter le rapport d'activité de l'année passée et de valider également le projet pour 2015. Alors, à l'issue de cette assemblée, conformément au statut, le conseil d'administration a été renouvelé. Et Ronald Coadic, donc, qui était président jusque-là depuis 2012, qui avait annoncé déjà son souhait de ne pas renouveler son mandat, ne s'est donc pas représenté. Et dans l'après-midi, c'est le conseil d'administration nouvellement élu, a élu à l'unanimité Philippe Ramel. Philippe Ramel comme président de Bretagne Culture Diversité. Alors Philippe Ramel est l'un des 5 membres fondateurs de l'association. Il est également un membre bien connu du milieu culturel breton car il est président du Cercle Celtique de Rennes depuis de nombreuses années. Donc il participe activement au rayonnement de la culture bretonne. Et donc, comme je vous disais, ça a permis aux membres de valider le projet pour 2015 et aux Parmi ces projets, ceux qui sont, on va dire, dans l'actualité, il y a Bretagna dont on a la gestion et l'animation. Donc Bretagna, c'est un portail des cultures de Bretagne où 340 000 documents numérisés du patrimoine culturel breton sont accessibles. Et aujourd'hui, Bretagna arrive à sa deuxième version, à la V2 comme on dit, car elle propose comme innovation notamment le web responsive. Alors, qu'est-ce qu'on entend par là? C'est-à-dire que Bretagna aujourd'hui n'était consultable quasiment que sur Internet, sur votre ordinateur personnel. Et aujourd'hui, vous pouvez le consulter sur les terminaux mobiles, donc tablettes et téléphones portables. On présente de façon un petit peu nouvelle également les dossiers et la matière qui y est présente. Également dans l'actualité, l'édition d'un DVD sur les clichés bretons pour mi-juillet. Donc vous pourrez retrouver tout cela via la Cop Braise et sur le stand que l'on tiendra également au Festival Interceltique de Lorient. Donc les clichés bretons seront donc édités en DVD. Et pour terminer, bed.bzh. Donc bed, c'est un site bilingue qui présente les minorités culturelles par le biais de documentaires que je vous invite à aller fréquemment parce que bed est on va dire, est enrichi de façon assez régulière. Et on est passé de 400 à 500 films en ligne. Et donc, il y a des actualités qui sont postées assez régulièrement et des coups de cœur. Donc voilà, tout ça sur bed.bzh. Sinon, pour toutes les autres nouveautés, vous pouvez aller sur notre site internet de Bretagne Culture Diversité qui est bcd.bzh.
Parfait. Merci à vous deux, Michael Biernik, Philippe Lanoé.
Merci.
On se retrouvera dans un mois. Vous pouvez réécouter cette émission sur le site radiobraise.net. Et je remercie également Claire Pérez qui a assuré la partie technique ici en studio à Radio Bourgogne et Anna Jarwen que l'on a beaucoup entendu dans cette émission aujourd'hui.